Hallelujah. Vive l'habitat mobile, éphémère, léger. Une émission de Radio Zinzine. Début août, nous avons participé à la rencontre sur l'habitat choisi qui a eu lieu à l'écosite La Borie, à Saint-Jean-du-Gard, dans les Cévennes. Dans cette émission, quatre membres des réseaux fort actifs dans ce domaine définissent ce genre d'habitat, ses avantages et ses charmes, surtout dans le contexte de la crise environnementale et celle du logement. Ils présentent leur réseau et ils dénoncent aussi la répression de plus en plus forte contre cette forme de logement et de vie, en citant en particulier la scandaleuse charte contre la cabanisation lancée à l'initiative du préfet des Pyrénées-Orientales. Nous écouterons Clem et Willem de HALEM, l'association des habitants de logements éphémères ou mobiles, Marcel de Macabane et Béa, chercheuse CNRS atypique, fortement impliquée dans les questions juridiques et réglementaires. Tout d'abord, Clem nous parle de Joe Sacco, qui fut le véritable initiateur de ce mouvement pour un habitat choisi.
Joe était important à plusieurs niveaux. Déjà, c'était quelqu'un avec qui on partageait énormément de débats et qu'on avait fini par devenir donc compagnon de lutte. Et donc, Joe a créé une association suite à des problèmes qu'il a rencontrés sur un camping à La Ferté-Alais, en Essonne. C'était un hiver où l'électricité a été coupée, les gens devaient payer 300 euros par mois, etc. Finalement, tout le camping a décidé d'arrêter de payer et il y a eu un procès. De là est née l'association HALEM, en fait. La reconnaissance du droit de vivre dans une caravane, arriver à le faire reconnaître comme étant un logement normal avec les mêmes droits que tout le monde, etc. Donc après, suite à ça, sont arrivées l'obligation de payer une taxe d'habitation quand on habite en logement mobile. Donc voilà, le décret est passé, il n'est pas encore appliqué. Donc des obligations, mais toujours pas de droits. Et le plus naturellement du monde, Joe Sacco est parti avec sa besace rencontrer différents réseaux, et notamment les gens du voyage qui étaient juste à côté dans l'Essonne, avec une association où ils étaient assez ouverts, donc François Lacroix qui est encore présent au CA d'HALEM, et qui est présent ici aussi. Après, plus largement, donc il s'intéressait bien à la question, puis il est parti rencontrer les différents réseaux. Dans les PO, l'asso Macabane a démarré, etc. Et dans les Pyrénées-Orientales, pardon. Il nous a tout de suite alertés, regardez, c'est un scandale, etc. Donc du coup, de fait, c'est a commencé à se créer comme ça un réseau de personnes qui voulaient défendre ce droit. Et finalement, comme c'était quelqu'un qui était une bête de travail, quoi, il était tout le temps à relier les gens avec les différents outils qu'il avait, et aussi il se déplaçait. L'asso HALEM est devenu un peu une référence, en fait, pour beaucoup, comme un lien, quoi. On se reconnaissait par le réseau HALEM. Donc voilà, après il a touché quelque chose d'un peu plus large qui est en fait en venant discuter par ici de cette problématique d'habitat éphémère et mobile. Donc je rappelle que HALEM c'est association pour les habitants de logements éphémères et mobiles et pour le droit à l'habitat choisi. Une notion qui a évolué aussi dans le temps au fur et à mesure que les problèmes se rencontraient. Ils rencontraient les décroissants, les réseaux d'éco-constructeurs. Donc la coordination des réseaux, en fait, c'est quelque chose d'un petit peu plus large qui contient aussi des réseaux qui s'intéressent à l'habitat groupé urbain, avec des habitats plus lourds. Donc on n'était plus dans l'éphémère et le mobile. Mais par contre, de par sa détermination à défendre le droit à vivre selon ses choix, c'est Joe qui coordonnait en fait ce mouvement. Donc Joe. A décédé dans un incendie que nous sommes beaucoup à soupçonner comme étant un incendie criminel sans enquête de suivi donc en Bretagne. Donc nous a laissé un peu avec un gros tas d'informations, avec énormément de réseaux que certains se connaissent, d'autres non, etc. Et il a fallu un peu défricher tout ça. Et donc là, on est en train d'essayer de clarifier, éclaircir la situation qui était en fait beaucoup liée à la personnalité propre de Joe, qui faisait du lien de par sa personne et qui a donc créé une espèce d'ambiguïté entre HALEM et coordination des réseaux qui, je pense que là, on a réussi à pas mal éclaircir.
Alors Marcel, toi, c'est on pourrait dire une autre association qui s'appelle Macabane, mais qui fait partie un peu de cette coordination, qui voudrait participer à tout ça. Alors, pourrais-tu raconter un peu l'origine et les activités de Macabane ?
Alors déjà, je peux faire le lien avec ce qui vient d'être dit, puisque Joe était présent lors d'une de nos assemblées constituantes de Macabane. Dès notre création, on a été en lien avec HALEM et avec le réseau, et c'est vrai qu'on a toujours travaillé ensemble, et je pense que c'est appelé à durer. Alors, la création de Ma Cabane, je rappelle quand même ce que veut dire Ma Cabane, c'est le mouvement autogéré des chercheurs et chercheuses en habitat autonome, novateur et écologique. C'est un pied de nez qu'on a fait en réponse à la charte de bonne conduite dans le cadre de la lutte contre la cabanisation dans les Pyrénées-Orientales, qui a été signée en octobre 2006 entre le préfet et un certain nombre de partenaires institutionnels dans les PO. Charte qui nous a beaucoup choqués quand on l'a découverte et qui nous a fait prendre conscience que l'époque où on pouvait se dire qu'il est encore possible de se glisser dans des petits coins et d'être discret était révolue et qu'il fallait vraiment se réunir, se rassembler, se mettre en réseau. Donc ma compagnie et moi, on a lancé un appel à créer une association. Il y a eu 60 personnes à la première réunion, 70 à la deuxième. On a créé cette association. Et c'est vrai qu'on a commencé par mener une réflexion, faire une critique de cette charte de bonne conduite, écrire un manifeste pour un droit au logement choisi. C'était en pleine période du canal Saint-Martin, etc. Donc le droit au logement était en plein dedans et il nous a apparu important d'ajouter l'adjectif choisi à ce droit au logement. C'est vrai que depuis, c'est devenu le droit à l'habitat choisi parce que le logement est un peu plus restrictif que l'habitat. L'habitat correspond mieux à ce dont on parle. Cette association a mené sa vie interne, elle n'est pas liée à un lieu. C'est une association de gens dans les PO et ailleurs, il y a un certain nombre de membres qui sont extérieurs. C'est vrai qu'un an et demi après sa création, l'engouement est un peu passé parce que le travail de fond est à faire et que le nombre de personnes disponibles pour faire ce genre de travail de fond et qui résistent à ce genre d'épreuves est un peu plus limité. Donc on est moins nombreux mais toujours actifs et toujours présents dans le réseau.
Alors, Habitat choisi, il y a un texte là-dessus. Je ne sais pas qui voudrait essayer de répondre, mais je voudrais quand même essayer de mettre un peu plus derrière cette définition.
Oui, Willem ?
Pour essayer de définir, il y a deux types d'habitat choisi. Il y a les habitats fixes, plus pérennes, qui peuvent être les cabanes, yourtes, etc. Et les habitats mobiles, qui peuvent être aussi les yourtes, aussi les tipis, les camions, les caravanes et tout type de logement qui puisse se déplacer.
Je crois qu'il y a aussi des réflexions derrière, entre autres la façon de construire. Ce qu'on appelle maintenant, c'est un peu un terme à la mode, mais l'empreinte écologique. Enfin, on a pas mal discuté ici sur l'argumentaire, soi-disant positif. Pourquoi on veut choisir cette façon de vivre ?
L'impact écologique, quel que soit le type de logement éphémère et mobile, il est fort probable que l'impact écologique des habitats choisis soit plus faible, afin que l'éco-bilan soit meilleur dans les habitats choisis que dans les habitats normés, que les pavillons ou les HLM.
J'aurais aimé un peu de précision donc sur cette fameuse charte de bonne conduite. Ça a quel statut cette charte ? Est-ce que c'est la préfecture ? Est-ce que c'est quelles instances qui ont décidé de créer cette charte ? Et quelle forme ça prend ? Et est-ce que c'est contraignante ? Quel impact ça peut avoir, quoi ?
Alors, c'est une excellente question parce que c'est le fond du problème. Je peux dire comme ça en préalable qu'en fait, si le préfet a choisi cette forme de charte, c'est parce qu'il a pris conscience que s'il faisait ça sous forme d'un décret, ce serait illégal. Et que donc, il a demandé aux différentes directions départementales de travailler à un projet un peu comme ça, par la bande, qui permettrait, c'est une sorte de manuel, quelque part, pour les différentes instances, pour lutter contre la cabanisation. Mais en utilisant des outils tout à fait limites. Donc, il ne pouvait pas prendre ça par décret, parce que là, il aurait été dézingué en plein vol. Donc, il a fait cette charte de bonne conduite, qui n'engage que ses signataires, comme définition d'une charte, c'est-à-dire les signataire étant le président de l'association des maires, par exemple, mais qui n'a pas reçu délégation de son assemblée générale pour faire cette signature, le directeur de France Télécom, alors qui lui étant directeur de France Télécom, effectivement, engage France Télécom, mais les employés de France Télécom sont-ils tenus par cette charte pour effectivement tenir les engagements de son directeur? Je ne sais pas. Ça a été signé par le président de la Chambre des notaires, par exemple. Est-ce que ça engage réellement les notaires? EDF aussi, le président de l'hôtellerie de plein air, aussi, donc les campings, qui ont une position extrêmement étrange là-dedans, parce que certains campings sont du mauvais côté, c'est-à-dire qu'ils hébergent des gens à l'année qui essayent d'y avoir leur domicile, et ils sont sous la menace du préfet. D'ailleurs, dans la charte, c'est dit hein, que les campings qui ne joueraient pas le jeu, qui hébergeraient des gens, seraient menacés de fermeture pour raisons sanitaires. C'est-à-dire qu'il apparaît, il semble apparaître à travers cette phrase de la charte, que le préfet a connaissance que quasiment tous les campings ont des failles et qu'il y a une sorte de tolérance parce que ça va quoi, on les emmerde pas, mais on utilise ces faiblesses pour faire pression sur eux quand ça va plus, quand leur comportement va plus quoi. Et d'un autre côté, le président de la fédération, je crois la fédération de l'hôtellerie de plein air des PO, signe cette charte en s'engageant à pas héberger à l'année les habitants quoi, des gens qui fixeraient leur domicile, alors que cette décision qu'on ne peut pas fixer son domicile dans un camping est en contradiction complète avec le Code civil, l'article 120 du Code civil, qui définit que le domicile, il y a deux conditions pour fixer le domicile, c'est l'intention de la personne et la réalité de sa présence. Voilà. Et il faut qu'il y ait une légitimité, c'est-à-dire qu'un squat ne peut pas être un domicile parce qu'il n'y a pas légitimité à y être. Mais du moment où on est propriétaire, on est locataire, on a l'autorisation du propriétaire, quoi que ce soit, il y a même un texte qui s'appelle « Traiter le phénomène de la cabanisation » qui est issu d'un collectif interministériel pour l'aménagement du territoire, qui lui présente une quarantaine de fiches actions pour expliquer justement aux élus, aux responsables, comment lutter contre la cabanisation. Là, c'est vraiment un manuel. Il y a une des fiches dans laquelle il parle de la question du domicile, où ils reconnaissent qu'on peut fixer son domicile dans une tente, dans une voiture, dans une caravane, que personne ne peut l'empêcher. Et pour autant, les préfets, systématiquement, empêchent les gens de fixer leur domicile dans des campings, ce qui, à mon sens, est totalement illégal et abusif.
En fait, c'est un phénomène qui est peut-être pas assez connu, hein, que, apparemment, il y a quand même de plus en plus de gens qui, pour différentes raisons, hein, peut-être par choix, mais aussi par obligation économique, etc., vivent toute l'année dans des campings ou dans des mobil-homes, enfin, etc.
Alors moi, je peux apporter ce témoignage, c'est que du fait d'une certaine médiatisation de ma cabane au moment de sa création et à d'autres moments, notre contact a été diffusé et on a eu beaucoup d'appels de toutes sortes de gens, et en particulier de gens vivant dans des campings, avec différentes motivations. Il y a des travailleurs, des ouvriers du bâtiment principalement, en général. Moi, je sais en particulier qu'il y a un certain nombre, en dessous de la dizaine, d'après mon information actuelle, je ne sais pas si c'est susceptible de changer, de travailleurs qui vivent à l'année depuis plusieurs années dans le camping municipal de Perpignan. Ça, c'est une information qui m'a été confirmée en plus par un journaliste qui les connaît personnellement depuis plusieurs années. Moi, j'ai eu connaissance de leur existence, mais le fait qu'ils sont depuis plusieurs années m'a été confirmé par un journaliste. Il y a des gens qui ont des phases de leur vie qui sont appelées bon, entre deux appartements, où ils vendent une maison, ils n'ont pas encore trouvé l'autre, ils vont vivre un certain temps dans un camping. Moi, j'ai connu des gens qui sont arrivés dans les campings comme ça et qui ont décidé d'y rester. J'ai eu contact avec d'autres gens qui ont vécu cette expérience, qui ont choisi de revenir dans un appartement, mais qui ont un très très bon souvenir de cette expérience, qui n'ont pas vécu ça du tout de façon tragique. Il y a des étudiants aussi qui vivent dans des campings. Et alors, au niveau des populations assistées, des RMIs, etc., ça, je n'ai pas une bonne connaissance du dossier. Je suppose qu'il y en a. Il y en a vraisemblablement. Ce qu'on appelle les travailleurs pauvres aussi, hein, des gens qui travaillent mais qui n'ont pas les moyens de se payer, il y en a partout en France. Maintenant, je ne sais pas si les différents rapports du DAL et d'autres organismes, ou de l'abbé Pierre par exemple, ont comptabilisé ces populations.
Savoir si, enfin, à ma cabane et d'autres, vous avez l'impression que c'est une initiative complètement locale, un peu atypique, ou est-ce qu'on doit voir ça comme une certaine tentative de test, enfin d'expérimentation qui est suivie par d'autres départements quoi.
À ma connaissance, il n'y a qu'un seul département où il y a un texte écrit et signé par le préfet de lutte contre la cabanisation. C'est les PO.
Marcel, de l'association Macabane.
Il y a différents textes. Donc, j'ai parlé entre autres de ce texte qui est vraiment un guide, qui s'appelle « Traiter le phénomène de la cabanisation dans le Languedoc-Roussillon », qui est un texte qui a été élaboré par un collectif interministériel de l'aménagement du territoire, qui est contemporain, qui est sorti à un mois d'écart avec la charte de bonne conduite, mais qui est un guide beaucoup moins répressif. C'est-à-dire, c'est vraiment un outil de compréhension. Ils disent qu'il faut passer par une phase d'étude, de compréhension, de rencontre des habitants, d'élaboration des projets, de voir dans quelle mesure on peut régulariser. Enfin, il y a toute une démarche qui, à ma connaissance, n'a pas été appliquée. Enfin, je n'ai pas d'exemple qu'elle ait été appliquée, cette démarche, qui, moi, m'intéresserait parce qu'elle préconise la rencontre avec les habitants et les associations représentatives. Et donc, là, on aurait l'occasion d'entrer, d'être des interlocuteurs et de faire passer notre message. Dans les Pyrénées-Orientales, la charte de bonne conduite, c'est éradication des cabanes, point barre. Il n'y a pas du tout d'état d'âme ou quoi que ce soit. Nous, on en mesure, par exemple, une des applications, parce que la DDE, dans cette charte, s'engage, par exemple, à tenir un fichier des cabanes. Et on a eu l'information, on l'a constaté au-dessus de nos têtes, mais on a eu l'information confirmée, que la préfecture, j'ai un doute sur le fait que c'est la préfecture, ou c'est le conseil général, a passé un contrat avec une entreprise d'hélicoptères pour des survols systématiques des communes, en prenant des photos, en s'arrangeant pour que ces survols aient lieu au moins tous les 3 ans, parce que quand une construction n'a pas été poursuivie, une construction considérée comme illégale n'a pas été poursuivie avant 3 ans, il y a prescription, ils ne peuvent plus agir. Donc ils ont organisé un survol systématique des communes dans les Pyrénées-Orientales pour dépister toute construction avant que les 3 ans soient passés. Donc ça, c'est un des effets de la charte de bonne conduite, par exemple. Donc ils investissent de l'argent, parce que ça coûte cher, un survol en hélicoptère de tout un département, c'est pas rien, quoi. Donc il y a un budget derrière, il y a une organisation, c'est une réalité, quoi.
Et peut-être un bref rappel... les motivations données par ces messieurs-là qui ont signé cette charte, pourquoi il faudrait éliminer les cabanes?
Alors, il y a une série d'enjeux. Ils appellent ça des enjeux. Le premier enjeu qui est cité, alors je ne m'en rappelle pas par cœur, il y en a 8 ou 9, le premier enjeu qui est cité, c'est l'exclusion. Donc, dans ce texte, ils considèrent a priori que les gens qui vivent en cabane ne l'ont pas choisi, que c'est des exclus, et donc il ne faut pas les laisser dans l'exclusion, il faut les exclure à nouveau de leur exclusion. En plus, c'est assez surréaliste, parce que ce texte fait le constat qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, mais a pour seule proposition de reloger ces gens dans les logements sociaux, dans le 20% de logements sociaux, sachant que dans les Pyrénées-Orientales, il n'y a qu'une seule ville qui est soumise au 20% de logements sociaux, c'est Perpignan. Donc en gros, ça veut dire expulser tous les gens des cabanes sur tout le territoire et les reloger dans la banlieue de Perpignan en logements sociaux. Ce dont ils ne veulent pas, il faut bien le préciser, quoi. Alors il y a un enjeu de salubrité publique, hein, avec les eaux usées, etc. Donc ça, c'est relativement facile d'y répondre, même si sur le terrain, il est vrai qu'il y a des situations qui sont pas claires, mais on peut y répondre. C'est-à-dire, moi, je pense par exemple, si on met en face de cette charte de bonne conduite un texte de l'ONU qui date de 98, qui appelle les États à régulariser les établissements humains spontanés et à les améliorer. Hein, si on appliquait cette directive, cet engagement de l'ONU envers tous les États de la planète, hein, c'est pas un truc juste comme ça ponctuel, quoi. Si on appliquait ça dans les PO, ça amènerait effectivement que quand on constate que des gens installés sont dans l'insalubrité, on leur propose des outils pour résoudre leurs problèmes d'insalubrité. On les expulse pas pour les mettre ensuite dans des HLM dont ils ne veulent pas. Alors parmi les enjeux qui me reviennent à l'esprit, il y a le plus choquant, c'est la dévalorisation de l'image touristique du département, qui est sans doute le plus important, puisque ça signifie que les cabanes sont sales dans le paysage et que si on veut faire venir des touristes, sachant quand même aussi que derrière, il y a ce qu'on appelle le zonage qui est fait au niveau européen, zonage dans lequel le Languedoc-Roussillon a été identifié comme une zone touristique. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, 400 000 hectares de vignes doivent être arrachés ces prochaines années. Ça a déjà commencé, il y a déjà 100 000 hectares qui ont été arrachés. Parce que même la viticulture, à terme, n'est plus vraiment censée exister, sauf la viticulture de haut niveau. Mais la grande viticulture n'est même plus censée exister parce que cette région a été identifiée au niveau européen comme une zone touristique. Et donc, cette charte anti-cabanisation vient aussi s'inscrire dans cette dimension-là. Il y a un dernier enjeu qui me revient, c'est l'enjeu financier avec la non-perception des taxes. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi assez comique, parce que si on ne perçoit pas de taxes, c'est parce qu'on ne reconnaît pas ce logement. Si on le reconnaissait, on pourrait percevoir des taxes. Donc on est dans une sorte de logique par l'absurde qui dit « vous ne pouvez pas rester là parce que vous ne payez pas de taxes », mais on dit « mais on veut bien en payer, si vous nous laissez vivre là, nous on veut bien payer des taxes ». Donc voilà, il y a tout un ensemble d'a priori comme ça, qui se retournent eux-mêmes comme des chaussettes et qui font que cette charte de bonne conduite, il est vraiment absolument choquant qu'ils aient appelé ça une charte de bonne conduite, parce que alors qu'est-ce que c'est la mauvaise conduite si la délation administrative et l'exclusion des gens, c'est de la bonne conduite, quoi.
Est-ce qu'en dehors des survols des hélicoptères, on peut constater des conséquences concrètes ?
Il y a eu, par exemple, certaines communes avec une un peu plus forte densité du fait d'une certaine tolérance des élus au cours des 10-15 précédentes années, dont les habitants ont été systématiquement visités par la police et par un représentant de la préfecture, avec interrogatoire au commissariat, avec proposition de signer un papier reconnaissant qu'on a commis un délit en construisant sa maison. Et les quelques personnes qui, au bout de 2 heures d'interrogatoire, ont craqué, ont signé ce papier, se sont vues prélever leurs empreintes digitales et fichées comme des délinquants parce qu'ils avaient signé ce papier. Il n'y a eu aucune suite parce que les 3 ans de prescription étaient passés depuis longtemps quand ils ont fait ça, mais ils font cette espèce de pression tout à fait insupportable sur les habitants des cabanes pour essayer de les faire craquer, quoi. Parce qu'il y a des tas de cas où les gens sont inexpulsables parce que c'est trop tard, quoi. Mais bon, ils font cette pression pour au moins faire en sorte qu'il n'y ait personne de nouveau qui vienne s'installer, qui montre bien, ils montrent leurs gros bras. Donc ça, c'est quand même des réalités. Après, les cas de procès, de choses comme ça, sont plus liés à des circonstances locales, à des plaintes, à des plaintes de particuliers, à des volontés de certains élus de faire partir les étrangers, entre autres, parce qu'il y a une commune où, entre autres, c'est en particulier les étrangers habitant dans les cabanes qui sont le point de mire, donc il y a ces dimensions-là aussi. C'est vrai qu'il y a peu de procès dans les PO qui viennent de la préfecture ou de la DDE. Voilà. Mais il y a toute cette dimension de fichage, de pression psychologique sur les gens, etc., qu'on mesure.
Ce serait quand même intéressant d'essayer d'évoquer comment vous sentez le prochain temps. Par exemple, cette histoire des Pyrénées orientales et cette démarche de charte de bonne conduite. Est-ce que ça, c'est probablement le premier signe de quelque chose qui va être un peu partout en France et que c'est vraiment un danger et qu'on est face à une répression qui s'accroît, quoi ?
Moi, je suis en Ariège. Et particulièrement en Ariège en ce moment, on est en discussion un peu musclée avec l'arrivée d'un parc naturel régional.
Clem, de l'association ALEM.
Donc là, je ne connais pas beaucoup les Cévennes, ça fait une quinzaine de jours que je suis là, donc en discutant un petit peu, je me suis rendu compte qu'ici, il y a un parc qui est un peu vieux, qui existe depuis pas mal de temps, et en fait, je m'aperçois qu'on est dans une région qui est complètement dédiée au tourisme. C'est-à-dire que tout est fait pour accueillir une grosse masse de personnes en été et être quasiment abandonné le reste du temps. Et en Ariège, en fait, on a la spécificité un peu inverse pour l'instant et qu'ils essaient de renverser par l'arrivée d'un parc naturel. Du moins, c'est comme ça que toute une partie de la population le perçoit. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, on va devenir un parc aménagé et nous, on est à l'intérieur. Alors, avec une association de Terre de Liens dans laquelle je suis administrateur depuis plusieurs années, on a décidé de faire une étude foncière en Midi-Pyrénées pour essayer de déterminer quelles étaient les zones qui subissaient le plus de pression foncière, les zones où la terre était la plus chère, où il y avait le plus de résidences secondaires, etc. Et c'était particulièrement là où il y avait des aménagements pour les touristes, quoi, donc les parcs naturels par exemple. Et donc finalement on se retrouve avec des élus et des gens installés sur le lieu qui voient d'un côté positif la possibilité de pouvoir faire de la vente directe de leur fromage de chèvre un peu plus facilement. Donc eux sont installés, propriétaires actuellement, et finalement dans quelques années on va se retrouver face à une gestion du territoire complètement dédiée à autre chose que les habitants qui sont là. Et parallèlement et curieusement, c'est l'époque où il y a le plus aussi de pression pour exclure les habitants, parce qu'en Ariège il y a beaucoup de cabanes dans les montagnes, quand même un certain nombre, et c'est assez culturel, ça fait quand même une vingtaine, trentaine d'années qu'il y en a. Et actuellement, donc, les pressions arrivent doucement. On sent que la tendance va s'inverser rapidement, quoi. Moi, je sens que c'est de pire en pire, en tout cas dans le secteur où je suis.
Alors actuellement, il y a cette rencontre. Est-ce que avant ou maintenant, vous réfléchissez enfin sur cette mise en place d'une coordination? Parce que maintenant, c'est un phénomène qui concerne de plus en plus de gens, je pense, en France et même au-delà. Mais je pense qu'il y a aussi une méfiance envers quelque chose de très dirigiste, enfin centralisé. Voilà. Est-ce que vous avez déjà un peu des pistes sur comment continuer après cette rencontre?
On est justement en train de chercher des pistes.
Béa, chercheuse fort engagée pour l'habitat choisi.
On peut dire qu'on a deux cas de figure. On a d'un côté la montée d'un contentieux. Donc on a des gens qui viennent ici à ces rencontres parce qu'ils se voient opposer, on va dire, des normes réglementaires pour pouvoir subsister sur un terrain qu'ils ont choisi, avec un mode d'habitat qu'ils ont choisi. Donc ça, on va dire que cette montée du contentieux, de l'implantation et de l'installation de ces habitats hors normes, elle est latente depuis 2002-2003, mais elle est manifeste depuis la réforme du permis de construire en décembre 2005, qui a donné lieu à la mise en place par les décrets d'accompagnement et l'application en juillet 2007 à une nouvelle réglementation extrêmement restrictive en direction des habitats HLL, habitation légère de loisirs, et RML, résidence mobile de loisirs, qui sont les catégories juridiques et administratives qui typifient en tout cas ces types d'habitats, qui ne prennent pas d'ailleurs en compte les nouveaux habitats que seraient les cabanes, les petits habitats écologiques, diversifiés, économes, sans empreinte. Ça veut dire aussi qu'on l'imagine en termes de réversibilité. C'est-à-dire que ce sont des habitats qui pourraient être regroupés. Il y a un livre de photos qui fait ce parallèle-là, Habitat plume, c'est-à-dire de l'habitat posé, qui, quand il n'a plus l'usage de sa vocation initiale, dénature absolument pas le milieu dans lequel il est posé. Non seulement le dénature pas, mais au contraire participe à la revalorisation, à la restauration et à la remise en culture des terres. Parce qu'il ne s'agit pas juste de défendre le droit à l'habitat choisi, il s'agit d'évoluer vers la reconnaissance de la diversité de l'habitat, qui aujourd'hui n'a pas beaucoup de soutien en matière d'aide des pouvoirs publics. Et on peut dire même qu'on s'oriente malheureusement en termes de résidences pavillonnaires, on s'oriente vers une uniformisation, une banalisation architecturale des territoires ruraux. Sachant qu'en contrepoint, l'offre politique constituée en termes d'habitat dit d'urgence ou de stabilisation est complètement inopérant et dont personne ne veut. Je pense aux centres de réinsertion, je pense aux résidences relais, je pense à des formes d'habitat aujourd'hui conçues en dur, en parpaing, avec des horaires extrêmement contraignants, dans des non-lieux où les aires de pastage et les aires de stationnement et les aires d'accueil des gens du voyage, qui se retrouvent toujours comme si finalement à la notion d'habitat choisi collait le stigmate définitif de l'habitat précaire, avec tout le questionnement sur la décence et la salubrité de l'habitat, qui se questionne au point par point, comme on l'a vu avec ma cabane, qui a fait un texte reprenant point par point les accusations lancées par la charte contre la cabanisation, qui dénonçait l'exclusion des enfants, qui dénonçait le rejet des eaux usées, donc la dénaturation des milieux, ce qui est faux. Les expériences qui sont aujourd'hui représentées à ces journées sont venues nous dire qu'il y avait aussi toute une bonne gestion écologique des lieux dans lesquels ces habitats prennent place. En plus, avec une autre dimension qui serait évidemment l'insertion paysagère, la qualité architecturale qui nous amène à voir comment des petits habitats d'hier qui étaient les casottes, les mazées, des petits habitats traditionnels sont aujourd'hui interdits de leur usage initial de pouvoir accueillir des gens. Donc voilà, c'est aussi tout ça qui est en cause aujourd'hui dans ce champ large et de réglementation extrêmement stricte et contraignante, avec les deux seules alternatives finalement laissées aujourd'hui à ce type d'habitat, se mouler dans l'existant, c'est-à-dire adopter des formes juridiques strictes correspondant à la possibilité qui est donnée aujourd'hui en matière d'implantation. Ça voudrait dire que pour créer des écolieux, il faudrait passer par la législation existante, des campings classés, des aires naturelles, des parcs résidentiels de loisirs, ce qui ne colle pas du tout à la vocation initiale de ces habitats. On voit que ça, ce sont des modes d'autorisation d'occupation de l'espace qui sont délivrés à des touristes, pour des touristes, et donc avec une pensée du territoire rural qui ne serait que des territoires traversés par les touristes, alors que là, on parle bien de territoires agis quotidiennement par des populations locales qui génèrent elles-mêmes leur projet et qui l'ajustent particulièrement en fonction des besoins recensés à la base. et qui prennent place, s'inscrivent dans un territoire en fonction des contraintes de ce territoire, mais en fonction aussi des ressources de ce territoire. Ça veut dire aussi des ressources locales, des ressources pérennes, donc la paille, le bois, la pierre, voilà.
Alors, une chose, par exemple, sur qu'est-ce qui nous a amené à retenir cette expression « habitat choisi » au sein du réseau, parce qu'il y a eu débat, etc. Puis à un moment donné, ce terme s'est imposé de lui-même. Une des choses qui a été intéressante, c'est que cette notion de choix, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire, d'une part, c'est le choix des personnes, mais c'est aussi la garantie que les autorités ne peuvent pas saisir de nos demandes pour dire à des pauvres des villes, dégagez, vous n'avez qu'à aller vivre dans une yourte à la campagne. Donc on a ce souci que ça ne puisse pas devenir une contrainte. Ça c'est une des choses importantes dans cet appel. Pourquoi on a retenu cette appellation d'habitat choisi ? Une autre chose que je voudrais dire, c'est que moi je pense de plus en plus qu'une des façons de définir l'habitat choisi, et ça s'est confirmé, moi j'ai beaucoup apprécié un des témoignages ce matin qui concernait un lieu de citadins qui se sont retrouvés sur un terrain de façon un peu brute au départ, qui ont petit à petit pris conscience que c'était pas satisfaisant et qui ont fini par devenir des écolos assez militants. Cette dimension d'évolution, l'évolutivité de l'habitat est quelque chose de très important dans l'habitat choisi, à tous les niveaux. C'est-à-dire, ça peut être le fait qu'on peut arriver avec moins de conscience écologique et en acquérir parce qu'on le voit qu'on en a besoin. Ça peut être aussi le fait qu'on arrive un couple, qu'on a des enfants et qu'on fait grandir l'habitat, ou au contraire qu'on arrive au moment où les enfants s'en vont et qu'à la limite ils vont s'en aller avec une partie de l'habitat parce que c'est de l'habitat qui est démontable et donc on ne va pas rester avec une grande maison ingérable mais avec juste ce dont on a besoin. C'est un habitat évolutif dans tous les sens, quoi. Jusqu'au point qu'il est réversible. C'est-à-dire, c'est l'autre notion qui me paraît très importante, c'est-à-dire que la définition pour moi de réversible, c'est que si un jour il n'y a plus d'habitants sur ce lieu, eh ben on peut le rendre à l'agriculture, on peut le rendre à son utilisation antérieure. Ça peut être dans 10 jours, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 100 ans, mais ça reste valable. Tous les aménagements qu'on va faire sont réversibles. Il n'y aura pas de choses qui vont perturber fondamentalement le lieu et le rendre inutilisable, quoi.
On a une grande prudence pour ne pas stigmatiser justement le choix, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui se sont de personnes qui se sont donc rencontrées autour de certains choix, d'autres autour d'autres choix, et que la grosse difficulté en fait c'est d'arriver à coordonner un peu ces groupes avec leur diversité qui leur sont propres. Et donc là notamment je pense à des nouveaux arrivants dans la coordination des réseaux avec qui j'espère on va pouvoir continuer à communiquer, qui sont les travelers qui voyagent de festival en festival avec l'attachement à la musique et à ce qu'ils ont envie de transmettre à travers ça. Et je pense aussi aux gens du voyage qui, en fait, eux, sont dans des dimensions aussi un peu différentes des nôtres, vu que leurs parents vivaient déjà en caravane, leurs grands-parents, etc.
Voilà, j'avais posé la question un peu avant sur l'espèce de, peut-être, l'aspect plus créatif, ou je ne sais pas comment on peut dire, par rapport à la législation ou les droits. Qu'est-ce que les réseaux propose si vous discutez avec des élus, peut-être l'idée de créer des possibilités de zones qui n'existent pas actuellement en fait sur les lieux peut-être pas constructibles ou pas prévus pour le moment dans les PLU, etc.
La réversibilité paraît comme un point essentiel pour éviter qu'on nous oppose justement le mitage, l'argument habituel qu'on nous oppose c'est le mitage des zones naturelles qui sont censées être un bien commun et les ressources naturelles sont censées pouvoir être partagées par tous et quelqu'un qui habiterait dans une zone naturelle est présenté par les institutions comme un voleur du bien commun. Cette notion de réversibilité, on essaie d'expliquer aux gens que le but du jeu n'est pas justement de s'approprier un bien commun mais bien de l'user pendant un temps mais de pouvoir le rendre tel que l'on l'a trouvé au départ au moment où on n'aura plus usage.
et même certainement le rendre en meilleur état, parce que sont associés à ces projets qui sont vraiment très multiples. Je tiens à signaler, à insister là-dessus, parce que dans le cadre de la coordination des réseaux, remontent tous les projets collectifs d'habitat groupé aujourd'hui, en tout cas une partie d'entre eux, que ce soit en milieu rural, en semi-rural, en périurbain ou en milieu urbain. Donc déjà une extrême diversité des formes, on va dire. Le problème aujourd'hui, en dehors du fait qu'il y a cette question de la réversibilité, c'est qu'on pense aussi qu'il est important, avec l'habitat, de penser la remise en culture des terres et de penser notamment jardin collectif, verger collectif. Pourquoi ? Parce qu'on est bien conscient du fait que, d'une part, en même temps que le droit au logement se met en œuvre, le droit à la subsistance, et notamment pour toutes les familles dans le besoin, il n'est pas inéluctable qu'elles soient, on va dire, raquettées entre la bio-food ou la junk-food venant de Aide ou de Lidl, enfin sans citer de marque. Ce n'est pas inéluctable, et ça veut dire aussi que la remise en autonomie vivrière est une des composantes très importantes de la majorité de ces projets-là. Ça veut dire, en termes de réversibilité, que quand on rendra aussi ces territoires à leur vocation initiale, on aura maintenu des réservoirs de biodiversité agricole autour de tous les centres habités. Et ça, c'est très important aussi parce que, soi-disant, on est dans un contexte post-Grenelle où on essaye d'activer en même temps et l'habitat intelligent, donc ce qu'on appelle l'habitat passif, avec des préconisations, avec des missions en matière d'urbanisme durable, d'énergie renouvelable, de mixité sociale, de réduction d'empreintes écologiques, et en même temps de restauration, de réhabilitation des terres agricoles, lesquelles sont, pour bon nombre d'entre elles, surtout ici dans des territoires où il y a de la déprise, énormément de déprise au niveau des habitants, mais de la déprise agricole aussi, qui sont des territoires laissés en friche, qui sont des territoires vacants.
Et puis on peut aussi citer comme notre exemple le fait qu'avant il y avait une présence beaucoup plus massive dans les zones de forêt et qu'une présence de personnes peut aussi aider à éviter des incendies, par exemple.
C'est un combat, puisqu'on se voit opposer le plan de prévention des risques incendies notamment, mais aussi des risques, il y a aussi les risques inondations qui sont très mobilisés en ce moment pour forcer les gens à partir. Les arrêtés d'insalubrité, comme on l'a vu pour la vieille Valette, où ils ont essayé de leur faire quitter un squat rural, ils ont essayé de leur faire quitter la vallée. Donc il y a différents outils réglementaires qui sont mobilisés par les élus pour forcer les gens à partir. Alors que tout à l'inverse, non seulement l'habitat peut être conçu en fonction de ces risques-là, mais on sait aussi que dans les zones où le territoire et le terrain est défriché, ça crée des zones coupe-feu. Et donc on peut même participer par le biais de la sylviculture à l'entretien des paysages, à la remise en fonction des chemins, au réempirage des sources, etc.
Bien sûr, un point de vue strictement environnemental, les gestionnaires des parcs naturels savent ce qu'on appelle la notion de fermeture du milieu. Jusqu'à il y a 50 ans, la plupart des espaces étaient occupés, utilisés par des agriculteurs, ou en tout cas par des êtres humains qui vivaient un peu partout. La densification des zones rurales s'est réduite, tout le monde est parti à la ville et les gestionnaires même du territoire parlent de fermeture du milieu quand la forêt reprend ses droits sur les espaces qui jusqu'à présent étaient soit pâturés, soit ramassés, où on pouvait ramasser du bois, où on pouvait glaner quelques trucs. Il y a encore quelques années, on payait et on paye encore, je crois, des gens pour débroussailler physiquement les espaces naturels parce que justement ils ne sont plus utilisés par les gens qui les utilisaient jusqu'à présent, quoi.
Dans le même sens, il y a en écologie scientifique, il y a un concept qui s'appelle l'effet de lisière, qui est un constat que les zones les plus riches en biodiversité sont les zones de changement de milieu. Et donc, quand un milieu devient complètement homogène sur un territoire, la biodiversité diminue. Les milieux se pénètrent les uns les autres, etc. Cet effet de lisière vient enrichir la biodiversité. Par rapport à la notion du risque, je voulais apporter une réflexion qu'on a eue au sein de ma cabane. C'est une proposition qu'on fait que quand des gens font le choix de s'installer dans une zone où il y a un risque, évidemment pas des risques majeurs, en dessous d'une montagne qui va s'ébouler ou des choses comme ça, mais comme le risque d'incendie ou le risque d'inondation et ces choses-là, il y a tout à fait la possibilité que ces personnes aient une formation Donc faire des formations spécifiques et devenir des partenaires, des gestionnaires de ce risque, donc de participer à la gestion du risque et donc d'apporter un plus à la collectivité par la présence dans ce milieu.
Pour rebondir, là on a beaucoup parlé de l'aspect environnement, enfin impact écologique de l'habitat choisi, mais on a aussi beaucoup parlé de l'impact social de l'habitat choisi. Le faible coût de ce type d'habitat permet à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une maison de pouvoir être primo-accédants sur une propriété et éventuellement vivre sous un toit qui leur plaît et qui leur permet de vivre autrement que d'être de simples locataires d'une institution qui les loge. Et si on fait le parallèle, on a des tracts intéressants sur la table de presse, dont un qui relate que la prochaine proposition sur une résidence pavillonnaire pas très loin d'ici, aux environs d'Alès, propose 69 mètres carrés pour 150 000 euros, avec climatisation réversible. Une cabane, en gros, je connais des gens qui, ou même des filles seules, qui ont pu construire leur cabane toutes seules pour moins de 3 000 euros. Et à partir d'aujourd'hui, elles ont un toit à du titanium, on pourrait dire. Et là, l'impact social paraît évident. Bon, il faut se rendre compte que les banques sont en train d'augmenter le temps de remboursement de crédit pour l'accès aux habitations qui est passé, de 25 ans à 40 ans maintenant, parce qu'un couple de smicards ne pourra jamais que se payer qu'un pavillon après 40 ou 50 ans de lutte et de travaux forcés. Et donc là, on est dans un aspect économico-social tout à fait intéressant.
Moi, je vais dire que sur la suite, je suis quand même relativement très inquiète parce que, en dehors de du durcissement du pouvoir réglementaire des titres d'autorisation de se poser sur la terre, on assiste à du droit dérogatoire de plus en plus important qui est donné comme ça au compte-gouttes pour des populations cibles de l'action publique, comme c'est le cas pour les gens du voyage. Je pense à la législation sur les terrains familiaux qui permet que des gens s'installent sur des terrains agricoles, par exemple, quand la caravane constitue leur habitat permanent. Aujourd'hui, on en est à demander que ce droit dérogatoire soit appliqué à tous. Donc, on va dire qu'on essaye de tricoter avec le droit, on essaye de tricoter avec l'existant, mais que c'est extrêmement difficile parce que, en dehors de cette chasse contre tous les habitats atypiques hors normes, posés dans les espaces naturels et agricoles. Il y a en même temps un durcissement de l'installation sur des terres agricoles pour des agriculteurs qui sont porteurs de micro-projets. Ça va avec, donc une fermeture aussi à ces installations agricoles minimalistes, on va dire, au nom de la viabilité économique, au nom de la rentabilité économique de leurs projets. Donc on voit que cette clôture, elle concerne à la fois les habitats atypiques, mais aussi tous ceux qui ont des projets agricoles associés et surtout des micro-projets. Donc ça, c'est très inquiétant, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération qu'on est sur un territoire européen unifié et que tout le long de l'arc méditerranéen, demain, tous les territoires ruraux seront vendus au plus offrant. Et puis, j'ai envie de dire aussi, sortir de cette politique de guichet qui consiste finalement à créer du droit, avec du droit qui n'est ni appliqué ni applicable dans le même sens sur chaque territoire. On voit aujourd'hui des DDE et des maires qui bataillent pour des permis de démolir avec des injonctions, avec des astreintes de remise en état des terrains. Donc on voit un durcissement de la législation et en même temps on voit des DDE qui refusent ou acceptent de façon complètement arbitraire ces occupations, ces installations, qui acceptent ou qui refusent de façon totalement arbitraire l'autonomie vis-à-vis des réseaux, notamment l'autonomie énergétique et aussi en fluide. On voit que les phytoépurations sont par endroits acceptées, tolérées, à d'autres totalement dénigrées et refusées. Donc il va falloir aussi sortir de cette application au cas par cas de la loi et des textes, parce que finalement on finit par être complètement en dehors de l'esprit de la loi.
C'est vrai que pour l'instant, la plupart des expériences d'habitat choisi profitent soit de failles juridiques, soit de passe-droit, soit de droits dérogatoires. Et à un moment donné, il faudrait arriver à statuer la réalité de ces expériences.
Thank you.
sur l'avenir, moi je voudrais apporter une dimension qui est la lutte dans laquelle on entre, avec cette demande qui nous reste à préciser et à formaliser un peu plus, qui est cette demande de la création d'un statut d'expérimentation, demande à laquelle on est parvenu parce que on a pris conscience assez rapidement quand on s'est dit qu'il faudrait que la loi évolue, que si on arrivait maintenant à demander un changement de loi, d'une part, nous, on ne serait pas prêts à en donner le contenu, et que d'autre part, il est très probable qu'on serait mal entendu et qu'on aboutirait à une loi extrêmement insatisfaisante. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faudrait entrer dans une phase d'expérimentation d'une dizaine d'années, ou par exemple d'une dizaine d'années, pendant laquelle des expériences sont menées sur le terrain, des bilans en sont tirés, des débats sont menés, de façon à ce qu'on puisse à terme élaborer un statut qui correspondrait vraiment à ce dont on parle. Maintenant, moi, ce qui me semble évident, c'est que si on veut arriver à un moment donné à des interlocuteurs qui peuvent porter cette demande dans le débat, il faudra qu'on amène un rapport de force à un moment donné, et que donc on sorte du bois de façon beaucoup plus ouverte encore, en tant qu'occupant de la terre, légitimement et sans doute illégalement, tant que cette question ne sera pas traitée, quoi.
Si vous souhaitez plus d'informations sur l'habitat choisi et les réseaux Alem et Macabane, vous pouvez consulter leur site, donc www.alemfrance.org, donc Alem France, c'est H-A-L-E-M, puis France, dans un mot, ou alors Macabane, c'est www.macabane, dans un mot.info. Alors là, vous pourrez trouver pas mal de textes, des documents. Entre autres, il y a le manifeste pour un droit au logement choisi, ou alors le critique de la charte de bonne conduite contre la cabanisation dans les Pyrénées-Orientales. C'était Hallelujah, une émission de Radio Zinzine.